France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal Valentin Grille. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Son apparition était attendue et son visage scruté par des millions de croyants. Le pape François s'est présenté ce matin sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour la messe de Pâques. Témoignage de fidèles à Rome au début de ce journal. L'armée israélienne reconnaît des erreurs dans une attaque ayant causé en mars la mort de 15 secouristes palestiniens dans la bande de Gaza. Tsahal vient de publier les conclusions de son enquête interne. Enfin, le père de Flamanville est reconnecté au réseau électrique depuis hier, mais cela ne va pas durer, prévient déjà EDF. Le visage est fermé, la voix incertaine, mais l'apparition symbolique. Le pape François s'est offert dimanche un bain de foule inattendu place Saint-Pierre, auprès de milliers de fidèles réunis pour célébrer Pâques. Le pontife a prononcé quelques mots à la fin de la cérémonie pour la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Il avait surtout rencontré, à la surprise générale, le vice-président américain J.D. Vance dans la matinée, signe qu'il ne compte pas abdiquer pour le moment. Bruno Duvic a rencontré quelques fidèles français sur place pour France Culture.
Fratelli et sorelle. Buona Pasqua.
Le pape n'est quand même pas très très en forme. Je pense que pour lui, ça doit être très compliqué.
On voit qu'il avait du mal à parler correctement.
Et de faire le même tour en papa mobile, vraiment, ça a été fabuleux le fait de l'apercevoir. Toute la famille était en communion, ça c'était très sympa.
J'avais depuis des années envie de le voir, mais on n'y croyait pas vraiment. Ben, moi, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien.
Même si Lourdes c'est beau, franchement le Vatican ça a à vivre. Et surtout, je pense que de voir le pape aussi, une représentation un peu de la religion, une personne sur cette terre, avec tous les événements qui se passent en ce moment, je pense que c'est très rassurant de le voir.
Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Je souhaiterais qu'il prenne cette décision de passer la main à quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment très très fragile pour lui. C'est s'épuiser, il s'épuise finalement.
Bon, il n'est pas seul, il y a tous les cardinaux qui sont autour de lui. Depuis quelque temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de paroles des prêtres pour la santé du pape, et voilà, c'est quelque chose qui préoccupe les croyants, c'est sûr.
Grazie, Papa Francesco, et buona Pasqua.
Bruno Duvic à Rome pour France Culture. En mars, Israël tuait 15 secouristes palestiniens du Croissant Rouge, des ambulanciers notamment enterrés près de Rafah dans le sud de la bande de Gaza et retrouvés une semaine plus tard par des responsables des Nations Unies. La fusillade provoquait alors une enquête interne dont Tsahal vient de publier les conclusions. Michel Paul, bonsoir.
Bonsoir Valentin, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture. L'armée israélienne estime que ses soldats n'ont pas tiré de manière aveugle, mais reconnaît des fautes et regrette les victimes collatérales.
Oui, c'est le résultat d'une double enquête menée par l'armée israélienne elle-même et qui a duré près d'un mois. Aucun indice d'une exécution des 15 secouristes tués le 23 mars par une unité de la brigade Golani. Les conclusions de l'enquête réaffirment que les soldats israéliens n'ont pas tué de manière aveugle et que 6 des victimes étaient des terroristes du Hamas. L'incident s'est produit dans une zone de combat hostile et dangereuse, sous une menace généralisée pour les troupes en opération, souligne encore l'armée dans ce communiqué. L'enquête reconnaît cependant des fautes professionnelles, des désobéissances aux ordres et un manquement à rendre totalement compte de l'incident. Seule sanction rendue publique, le commandant en second de l'unité concernée sera relevé de ses fonctions, un officier supérieur sera lui réprimandé et l'armée israélienne ajoute regretter le préjudice causé aux civils non impliqués.
Merci beaucoup Michel Paul, correspondant RFI à Jérusalem pour France Culture. Gouvernement japonais cherche enfants désespérément. L'immigration augmente dans le pays, mais le nombre d'habitants de l'archipel chute depuis 14 ans de suite. Il a décroché d'un demi-million de personnes l'an passé. Au décès massif des personnes nées dans l'immédiate après-guerre s'ajoute un déficit de naissance. Le taux de natalité pourrait continuer à fondre jusqu'à atteindre 1,15 enfants par femme en 2030. Les autorités cherchent donc des parades, mais sans succès. Pour le moment, reportage de notre correspondante à Tokyo, Karine Nishimura.
La dénatalité au Japon dure depuis plus de 40 ans. Pourtant, les allocations, les aides augmentent et rien n'y fait. Pourquoi ? Réponse de citoyenne.
Parce que le gouvernement fait n'importe quoi, pardi. Les mesures prises vont dans la mauvaise direction. Si on améliorait l'environnement de travail et la hausse des revenus, le nombre d'enfants augmenterait naturellement. Mais vu qu'on fait le contraire, on n'évitera pas la dénatalité.
Les Japonais pensent qu'il ne faut ennuyer personne et qu'on doit soi-même s'occuper
intégralement de ses enfants. Et l'éducation des enfants est vue comme une responsabilité féminine.
Les jeunes femmes savent ce qui les attend, donc elles ne veulent plus d'enfants.
Selon l'universitaire Junia Tutsui, l'équation gouvernementale plus d'allocations familiales égale plus d'enfants à naître est trop simpliste dans un Japon où le mariage reste le premier pas vers la parentalité.
Même si vous augmentez les allocations familiales, un ou une célibataire qui n'a pas de copain ou de copine ne se dira pas immédiatement « chouette, il faut vite que je trouve un partenaire pour faire des enfants et en profiter ». Il y a d'autres mesures à prendre.
Les femmes ont aussi besoin de pouvoir garder une liberté et du temps pour elles, ce que la société tente à leur enlever quand elles deviennent mères.
Karine Nishimura à Tokyo pour France Culture. L'EPR de Flamanville atteindra-t-il sa pleine puissance d'ici à cet été? C'est en tout cas le vœu d'EDF. Le réacteur nouvelle génération a été reconnecté au réseau électrique hier après 2 mois d'arrêt. Arrêt provoqué par une défaillance technique, le dernier épisode en date d'une succession de problèmes. Fin 2024, l'autorité de sûreté nucléaire avait relevé 49 anomalies sur le site normand, la plupart sans gravité et liées à des erreurs humaines sur ce qui demeure un quasi-prototype de l'industrie française, malgré les répliques déjà fonctionnelles en Finlande et en Chine. Les opérateurs ont pu mener diverses opérations de maintenance. La relance est douce car EDF veut surtout vérifier l'efficacité de ses propres travaux. Lauriane Delanoë.
Oui, l'EPR reprend sa petite production d'électricité. Il est encore loin de sa pleine puissance. La mise en service est très progressive depuis la toute première connexion au réseau en décembre dernier. Les essais en fonctionnement reprennent donc depuis hier soir et les agents de Flamanville vont surveiller attentivement le groupe turbo-alternateur. Cette partie de la centrale qui produit vraiment l'électricité présentait un échauffement anormal avant ce long arrêt de 2 mois. Les opérateurs ont fait des réglages et maintenant, avec la reconnexion au réseau, ils sauront si ce problème est réglé ou s'il faut de plus gros travaux. EDF précise, cette phase de contrôle permet justement de détecter toutes les interventions nécessaires pour que le réacteur fonctionne en toute sûreté. Et l'électricien prévient, il y aura de nouveaux arrêts et redémarrages de l'EPR dans les prochains mois au fil de la montée en puissance.
Précision de Lauriane Delanoë. On l'en savait fervent défenseur, François Bayrou veut désormais engager une réforme électorale pour instaurer un scrutin à la proportionnelle. Annonce faite ce dimanche par le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola. Le gouvernement compte d'abord consulter les partis et les groupes parlementaires, ce dès le 28 avril prochain. Pour le moment, la droite et Horizon s'y opposent. La gauche veut une évolution du mode de scrutin. Quant au RN, soutien historique de la proportionnelle, mais devenu régulièrement premier parti de France, il défend désormais une prime majoritaire pour les listes arrivées en tête. La SNCF se prépare à une possible semaine noire de grève, et ce pour le très attendu du pont du 8 mai. Un préavis a été déposé par Sudrail et la CGT Cheminot du 15 au 11 mai. Les syndicats réclament des primes revalorisées et les contrôleurs protestent contre les changements d'emploi du temps trop nombreux. Le ministre des Transports Philippe Tabarot a appelé ce dimanche sur France 3 les cheminots à la responsabilité pour éviter un conflit que les Français ne supportent plus. Il ne faut pas dégoûter nos concitoyens de prendre le train, a déclaré le ministre. De quoi provoquer la colère de Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sudrail.
Nous, on ne fait pas un conflit en fonction de ce que pense le ministre des Transports. Voilà. On fait un conflit en fonction de ce que pensent les collègues, en fonction de la situation. La situation, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire non seulement c'est une entreprise qui fait des bénéfices, mais en plus c'est une entreprise qui a des taux de croissance à 2 chiffres. C'est-à-dire qu'à la fois on fait de l'argent et à la fois on a des perspectives de croissance devant nous. Et ça, dans ce contexte-là, aller chercher des augmentations de salaire, enfin, ça serait pas légitime. Mais c'est une blague. Puis c'est sûr que ce type de sortie du ministre des Transports, enfin, ça agace plus les gens qu'autre chose. Enfin, moi, je l'invite à en faire plus souvent parce qu'à chaque fois qu'il fait ce type de sortie, il renforce les collègues dans leurs convictions et il y en a encore plus de collègues qui se disent « Ah, bah, si c'est ça, on va se mettre en grève ». C'est sûr qu'avec un ministre comme ça, qui met des grands coups de jerrican d'essence sur les braises, on est parti pour un bon conflit social, donc je l'invite à continuer dans ce type de provocation.
Propos recueillis par Marion Ferrer. 5 jours pour refonder Mayotte. Emmanuel Macron s'engage dès demain et pour une partie de la semaine dans une tournée dans l'archipel, touchée il y a 4 mois par l'ouragan Chido. L'Élysée assure que la production d'eau et d'électricité est revenue à la normale, que les travaux de reconstruction suivent leur cours. Les élus d'opposition promettent de leur côté un accueil glacial. Premiers échanges prévus dès ce lundi, le président dirigera un conseil des ministre destiné à la présentation d'une loi de refondation. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, promet des mesures structurelles pour le développement de l'île. Mais le texte doit aussi s'attaquer à l'immigration venue des Comores. Il doit durcir l'obtention de titres de séjour, faciliter l'évacuation des habitations insalubres. On termine avec un mot du temps. Une soirée et une nuit pluvieuse sur la majorité du pays. Il fera 11 degrés à Auxerre, 13 à Montpellier et 14 à Nice. Merci d'avoir suivi ce journal préparé par Caroline Beneteau avec Ludovic Roger à la technique.